Alors bonjour, merci d'être là. Hein. Ils vont arriver. On est avec Jaouen Salin qui signe Jaouen, qui est dessinateur de BD et plutôt spécialisé de fait dans la science-fiction. En tout cas, tu as plus œuvré dans la... Ouais. Prends ton micro.
Allô? Ouais.
J'aimerais savoir ce que tu lisais enfant. Et, bon, je vais pas te demander est-ce que tu dessinais enfant parce que ça me paraît évident. Comme bah, tous les enfants, tu dessinais.
Non, justement.
Non. Ah, bon. Alors j'aurais dû te le demander.
Je lisais peu et j'ai commencé à dessiner tard, en fait, tardivement. Ah ouais. J'ai commencé à dessiner, j'avais 15-16 ans. Donc c'est pas du tout un truc de jeunesse.
Et c'est venu comment alors?
En fait, ce que je disais hier sur l'autre scène, plus jeune, j'étais plutôt sportif et je mettais beaucoup d'énergie là-dedans. En fait, c'était vraiment plutôt ma passion était tournée vers le sport. Et vers 15-16 ans, j'ai fait un transfert vraiment de toute cette énergie que je mettais dans le sport, je l'ai mis dans le dessin. Donc j'ai choisi le dessin. Je sais, au début, j'ai pas. Avec le recul, maintenant, je comprends pourquoi. À l'époque, c'était un peu. J'ai rebondi sur le fait que j'avais un collègue qui dessinait bien en classe, et puis j'ai rebondi là-dessus. Je me suis mis à dessiner, à copier ce qu'il faisait, et de fil en aiguille, je suis tombé sur des cartons de dessin dans le grenier de mon beau-père. Et puis du coup, j'ai finalement pratiqué le dessin comme je faisais du sport, quoi.
Mais t'étais facile, je veux dire, quand tu t'es mis à dessiner, t'as vu que ça venait.
Non, j'étais pas. Disons que je pense que j'avais un bon œil. J'étais curieux et que j'étais un peu cinéphile. Je regardais des films. J'aimais. J'étais déjà très sensible à la lumière et aux couleurs. D'ailleurs, j'ai commencé le dessin par la couleur. C'est-à-dire que j'avais des difficultés avec l'anatomie, la perspective, mais j'étais assez facile sur la couleur. Donc du coup, j'ai axé mon travail autour de ça. Finalement, j'ai fait tout le travail à l'envers. J'ai commencé par la couleur, ce qui est normalement est le remplissage du dessin une fois le dessin réalisé. Moi, j'étais à l'aise sur la couleur et j'ai appris finalement à structurer mon dessin par la suite en apprenant l'anatomie, la perspective. Et au final, le dernier truc que j'ai travaillé, c'est la narration, alors que la plupart des dessinateurs classiques ont un attrait pour la narration. Et le dessin peut être accessoire. Il y a des très bons dessinateurs de BD, enfin raconteurs d'histoires, qui sont très bons en narration et qui n'ont pas un dessin exceptionnel. Et moi, en fait, j'ai fait l'inverse. Je suis parti d'un dessin très incarné. Mon objectif, c'était ça, d'avoir un dessin très physique, finalement assez proche du sport, et un dessin anatomique, quoi. De fil en aiguille, bah, j'ai eu envie d'en faire des histoires. Donc,
c'est intéressant ce que tu dis sur le dessin et le sport. Est-ce que y a aussi un parallèle avec l'écriture à ça, quand on est concentré vraiment sur quelque chose, sur un dessin, quand on écrit et quand on fait du sport, est-ce que tu peux comparer le moment où tu t'évades, en fait, et où tu vois ce que je veux dire, et où tu es tellement concentré sur le truc.
Oui, espèce de transe.
Voilà, ouais. Ouais. Bah, est-ce que tu faisais quoi comme sport?
D'athlétisme. Bon, j'en fais toujours, je fais du triathlon maintenant. Bon, c'est un peu différent parce que je fais du. C'est un peu plus long. Enfin, je fais pas des épreuves longues, je fais plutôt des triathlons sprint. Donc ça reste quand même des efforts assez courts. Mais jeune, je faisais vraiment du 100 mètres, de la longueur, enfin, donc vraiment des trucs d'explosivité. Dans le sprint, je ressentais pas ça, pas la transe, mais c'était plutôt la performance que j'apparente. Enfin, la performance que je recherche dans le dessin, là, pour moi, je trouve que c'est assez proche du sport. Par contre, l'état de fatigue qu'on peut avoir. Ou d'espèce de transe qu'on a quand on fait un effort long d'endurance avec effectivement là un dépassement de soi. Là effectivement il y a un peu de ça aussi dans le dessin. Hein. Enfin en tout cas comme je le pratique.
Okay. Donc tu t'es mis au dessin à 17 ans. Est-ce que tu avais des dessinateurs qui t'ont influencé ou en tout cas dont tu te disais voilà, c'est vraiment des maîtres ou...
Ouais, bah. En fait, j'y connaissais rien à la BD. Mes parents n'étaient pas du tout lecteurs. Mon père était assez cinéphile, donc bon, on parlait un peu de cinéma. Mais en fait, je suis tombé sur un carton de dessin. Je m'en rappelle très bien, hein, dans le grenier de mon beau-père. Et dedans, il y avait 5 albums phares, enfin qui m'ont construit. Il y avait l'Incal de Mobius. Il y avait le tome 6 des Naufragés du temps de Gillon. Il y avait Rank Xerox, il y avait Corben dans Air Comprimé, tout ça, dans Air Comprimé, et il y avait Riménez aussi. Riménez, alors c'était pas les Métabarons à l'époque parce que c'était plus vieux, mais je sais plus quel récit c'était, mais voilà, donc ça a été.
T'étais prédestiné à faire de la SF là presque déjà.
Ouais, je pense qu'en tombant là-dessus et du coup comme à cette époque-là en parallèle, je regardais beaucoup de films avec les potes des années 80, voilà tous les Aliens, les Abyss et compagnie, voilà, c'est des films qui ont bercé mon adolescence, donc j'étais pas d'ailleurs encore maintenant je me retrouve pas tout à fait dans le profil type du dessinateur quand je suis sur les salons. Je me sens toujours un peu inadapté, quoi, à la fois entre le sport, à la fois entre la bande dessinée, le cinéma. Et puis, j'ai pas une culture vraiment autour de ça, mais je prends un peu de partout, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire bien les choses, d'être intègre. Après, j'ai pas une sensation d'appartenance vraiment à une communauté particulière, quoi.
T'as un parcours un peu atypique, quoi, non ?
Au final, oui, je pense que oui. Et à la base, c'était un complexe. Et puis maintenant, je me dis, écoute.
T'as quand même rejoint la meute. Je veux dire, t'as fait des écoles après d'art.
Oui, après j'ai fait une école.
Là, tu t'es confronté.
Ouais, bien sûr. Non, je suis pas autodidacte. J'ai fait une école d'art à Lyon, l'école Émile Cole, qui est une école assez réputée. Voilà. Et puis voilà, j'ai fait le cursus classique et très vite j'ai senti que c'est une école qui forme aussi à l'animation et à la 3D, aux jeux vidéo. Et bon, j'ai su très vite que moi c'était l'image fixe qui me plaisait. Et puis voilà, aller vraiment en profondeur dans l'image, travailler vraiment la perspective atmosphérique, les successions de plans, ça c'est quelque chose qui me fascine.
T'as commencé à rencontrer des pros, des dessinateurs de BD à ce moment-là ou...
J'avais des enseignants. Ouais. J'ai eu Yves Gott, qui est un dessinateur d'une autre génération, mais qui est un grand dessinateur. Ouais. J'ai eu aussi Christian Lax.
Ah oui, excellent.
Ouais, voilà. Donc voilà, après ça c'était des enseignants en bande dessinée, mais on faisait pas que ça, hein. On faisait aussi j'ai eu un très bon professeur d'anatomie qui s'appelait Michel Lauricella, et qui a après été enseignant aux Beaux-Arts aussi, je crois, enfin au Gobelin aussi en anatomie, vraiment un cador, quoi.
Et du coup t'as commencé à faire, je sais pas comment t'as commencé, mais tu t'es lancé dans l'illustration, comment t'as démarré après professionnellement? Sorti Émile Cole, tu t'es mis à bosser direct?
Ouais, bon.
Ou même avant
Disons que quand on sort de l'école, on pense naïvement qu'on est prêt pour le marché du travail. Bon, après, ça dépend des illustrateurs. Il y a des illustrateurs qui sont plus matures que d'autres. Moi, je pense que j'avais une maturité. Je savais où je voulais aller, mais par contre, ça nécessitait encore du travail. Je voulais vraiment un travail académique réaliste qui est quand même compliqué. En plus, je partais de loin, j'ai commencé le dessin assez tardivement, donc ça faisait que quelques années que je dessinais, et avec les ambitions que j'avais, je sentais que j'avais encore besoin de travail. Donc finalement, j'ai eu des pistes pour commencer à travailler assez vite en bande dessinée. Mais j'avais pas envie d'attaquer avec un truc qui soit pas au niveau de mes espérances. Donc j'ai volontairement, pendant 2 ans encore, travaillé beaucoup, la perspective notamment, qui pour moi était enseignée de manière trop collégienne. Enfin, on apprenait vraiment un processus géométrique et la perspective était très... C'était un architecte qui nous apprenait à l'école et il n'était pas du tout, il n'était pas dans l'intuition, pas dans, dans l'espace. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment la sensation de profondeur, comment le donner, l'impression,
on peut tricher en perspective,
l'illusion. Ouais. Parce que le dessin, c'est que de l'illusion. Il faut comprendre la réalité, enfin en tout cas la réalité telle qu'on l'a codifiée. Et c'est vrai que la perspective, telle qu'on l'apprend, elle est pleine de codes. Il y a la ligne d'horizon, les points de fuite. Mais on peut extrapoler tout ça. On peut jouer avec. Et là, ça devient vraiment intéressant.
Donc du coup, tu as commencé à faire de l'illustration de romans, de jeux.
Pour m'essayer quand même un peu et pour tâter un peu le terrain, j'ai fait des couvertures de romans jeunesse. Comme tout le monde, j'ai fait quelques dessins dans le jeu de rôle, mais j'étais pas du tout rôliste, donc c'était pas mon univers, mais c'était sympa quand même, j'en ai fait un peu. J'ai fait beaucoup de scolaires, en fait. J'ai travaillé pour Attier pendant 3-4 ans, où je faisais des manuels de français, où je faisais plein de petits dessins sur des textes divers, avec des univers qui n'avaient rien à voir. Finalement, ça, c'était assez formateur, parce que ça me permettait de travailler un peu tout. Je dessinais des chevaux, l'époque victorienne, des textes plus contemporains. Et c'était sympa. C'était des tout petits dessins. Mais
Moebius, il a fait ça aussi. Il a dessiné pour des encyclopédies.
Pour Larousse,
Et il disait qu'il avait tout appris. Hein, parce qu'on est obligé à dessiner de tout. Quoi,
exactement. J'ai fait ça. Puis là, depuis 6 ans maintenant, je fais du storyboard publicitaire. Et je dirais
j'ai vu ça sur ton site, ça c'est intéressant.
Disons que j'ai fait ça à un moment où j'ai eu une désillusion avec ma première série en bande dessinée qui s'est mal passée. Et ma fille arrivant.
Ça se passe toujours mal la première.
Ouais, apparemment. Du coup, il a fallu réagir. Et bon, comme j'avais pas non plus envie de m'éloigner du dessin, j'ai. Je me suis tourné vers la publicité et ça a assez vite marché. Je me suis fait un nom. Enfin, en tout cas, j'ai du boulot là-dedans. Et finalement, c'est un peu inavouable parce que c'est pas ce que je préfère dans ma production. Mais par contre, ça me nourrit et j'ai appris beaucoup, beaucoup sur le dessin. Parce que je dessine tous les jours en grande quantité. Il faut une grosse production. Avec finalement tous les codes de la bande dessinée à respecter, à savoir définir un personnage et le tenir d'une image à l'autre dans tous les sens, avec en plus toutes les subtilités du réel, quoi, parce que la publicité c'est le monde contemporain, donc on décrit une époque contemporaine avec les looks actuels, donc être dans l'air du temps, etc. Et en plus on raconte pas par le on peut pas bluffer, en fait. On peut pas faire des images m'as-tu vu qu'on a souvent en bande dessinée avec des images qui envoient, quoi, avec beaucoup d'effets qui sont finalement séduisantes, mais la publicité ne permet pas ça. Donc la publicité, c'est vraiment un travail autour des attitudes, des subtilités. Je dessine beaucoup d'enfants, des femmes, et ça a été un super apprentissage pour le dessin, quoi.
Donc, après, au bout de ces 2 ans, là, tu t'es senti prêt pour la BD ?
Ouais, voilà. Ça, c'était... Ouais, donc la pub, c'est plus récent. Mais suite à mes... J'ai aussi fait 2 ans d'enseignement dans une école d'architecture intérieure. Pareil, je sais pas pourquoi j'ai atterri là-dedans, mais il fallait que je travaille. Et j'apprenais la perspective à des gars qui avaient le même âge que moi, voire plus vieux que moi. Et là, ça m'a demandé, justement, un gros travail de vulgarisation de ce que moi je considérais, à savoir que la perspective, c'était pas juste une construction à la règle avec des repères orthonormés, c'était vraiment une vision de l'espace, quoi, comment tout ce qui nous entoure à une échelle et le référent, c'est l'humain, en fait. On est au centre de tout ça et tout ce qu'on construit et à notre échelle, une table fait pas n'importe quelle hauteur. Et ça, c'est une curiosité du monde, en fait, de tout ce qui nous entoure, et ça facilite grandement après le travail finalement de la perspective, puisque tout ce qu'on dessine a un volume dans l'espace, occupe un vide, un plein plutôt, et crée des vides. Donc suite à ça, je me suis senti prêt à faire de la bande dessinée. Et d'abord du storyboard, j'ai storyboardé un premier album. pour une copine. Et puis,
c'était quoi?
C'était Académie, justement, de Julien Blondel.
D'accord. Okay.
Que tu connais, pardon. Et bon, assez vite, la dessinatrice avait envie de faire ses boards. Et puis moi, j'avais aussi envie de dessiner. J'étais un peu frustré. Donc j'ai arrêté. Et puis j'ai enclenché un projet avec ce scénariste. Donc qui s'est publié. On a publié ça un an après chez Soleil. Donc ça
alors,
on peut mettre les visuels regardons, un peu.
Ouais. Donc Nova, c'est quoi l'idée en fait? C'est de la SF, mais c'est mythologique.
Ouais, c'est pas vraiment uchronique, c'est pas vraiment. C'est une espèce de mix.
Mythologie grecque avec des robots, quoi.
Ouais, voilà, y a un peu de Star Wars, c'est vrai, même beaucoup. En fait, le scénariste avait. Avait été marqué par Antigone en fait adolescent et il a revisité le mythe l'histoire d'Antigone dans ce projet quoi.
Alors là, c'était quoi ta technique de dessin là?
Alors là, en fait,
parce qu'on verra après que t'as évolué. Donc là, ouais. t'es parti sur quoi?
À l'époque, c'était je faisais des lavis. Alors attends, parce que ça c'est toutes les pages couleurs, je vais essayer de trouver les pages noires et blancs.
Il y a eu un gros travail de design aussi sur les persos, sur les robots, les machines.
Ouais, bah... Ah mince, je fais n'importe quoi là. Pardon. Donc moi j'ai un goût prononcé pour l'académisme, bon ça se voit hein, dans mon dessin, c'est assez, assez gréco-romain on va dire. Donc j'aime bien cette époque et donc en plus le projet le justifiait puisque Julien revisitait le mythe d'Antigone, donc bon ça allait vraiment pile avec. Donc là il y a eu un design très mécanique et très simple en fait. J'étais pas du tout dans le design moderne plutôt japonisant, mecha qu'on voit beaucoup actuellement, et je m'inspirais plutôt de moteurs, de mobilettes, de vieilles machines comme ça, qui en plus à l'adolescence m'ont marqué. J'ai pas mal bricolé avec les copains, et donc voilà, il y avait des espèces de culasses, des carpères.
Un peu steampunk quoi.
Ouais, un petit peu, ouais, mais pas le côté. Vapeur, rivet, tout ça. Enfin, c'était
les vieux boulons et
les vieux boulons rouillent et puis on se demande même comment ça peut voler, mais bon.
Et en même temps, vu le contexte et l'endroit, on se dit avec tout le sel qu'il doit y avoir, ça tout doit rouiller très vite. Et...
Aussi.
Ouais,
c'est vrai. Donc ça peut se tenir.
Et la technique de dessin alors, c'est du lavis.
Donc ça, c'était des lavis à l'encre de Chine, pinceau quoi, classique. Que je scannais et après que je mettais en couleur sur Photoshop.
C'est toi qui faisais tes couleurs?
Ouais, j'ai
tu
toujours.
Fais toujours tes couleurs?
Ouais, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a amené au dessin, c'était d'abord la couleur. Donc j'ai toujours travaillé la couleur. Ouais. Et c'est. Alors maintenant, j'essaye quand même d'approcher la page. D'abord en tant que narrateur et dessinateur plus que coloriste. Et c'est vrai que j'avais tendance à une époque à avoir tout de suite une vision de l'ambiance et de la
tonalité,
de la réalité, enfin en tout cas des lumières. Et du coup, je servais ce propos-là avant même de servir l'histoire. Et okay. Bon, ça c'est un défaut de jeunesse. Maintenant, je pense que je suis un peu moins dans le. J'essaye d'être moins. Dans la performance du dessin, je triche peut-être moins. Je suis plus.
Il y a combien d'étapes avant d'arriver au lavis là, comme ça, à l'ancrage? Est-ce qu'il y a un story après un crayonné?
Ouais, c'est vrai que j'aurais dû les prendre. J'ai des boards après sur autre projet, mais là j'en ai pas pris.
Ouais,
je faisais un board au format A4, bon, classique au stylo, et puis que après je crayonnais. Donc j'agrandissais le board sur ordinateur, un format A3, et à la table lumineuse je faisais un crayonné. Et après, je reprenais encore le crayonné à l'ancrage en table lumineuse par-dessus pour faire les lavis ensuite. Ouais, c'était assez long.
Le lavis, tu peux expliquer un peu la technique?
Le lavis, c'est de l'encre de Chine qu'on dilue. En général, je faisais deux mélanges. Il y avait un gris sombre, un gris assez clair. un noir, et puis c'est de l'aquarelle, quoi, enfin, ni plus ni moins. Ce qui est pas mal, c'est tout de suite de poser un premier gris qui va tout de suite rassurer, parce que c'est vrai que souvent quand on part sur des volumes comme ça, le blanc est assez impressionnant. Donc tout de suite identifier quelle zone on va laisser en blanc, ça permet de savoir assez vite où on va. Et après on fait monter doucement les contrastes pour arriver à...
Alors avec toutes ces étapes, la couleur et tout, combien de temps sur une planche à l'époque?
À l'époque, j'allais quand même relativement vite parce qu'à cette époque-là, je faisais que de la BD, vraiment là. J'y croyais à fond. Et sur ce tome, je faisais... c'était que le noir et blanc, mais je faisais 8 pages par mois.
Ah oui, donc 2 par semaine à peu près.
Ouais, 2 par semaine. Et la couleur, j'allais très vite puisque j'avais fait le bouclage de la couleur. Je faisais 4 pages par jour, je crois. Parce qu'en fait, là, tout le boulot est quasiment fait. La couleur, elle vient juste... créer une harmonie, mais il n'y a pas de travail d'ombrage, de texture, j'avais tout en fait. Donc,
tu posais des couleurs, des aplats qui étaient déjà...
Alors après, bon, faut être connaisseur un peu, mais sur Photoshop, il y a plusieurs modes de calque, et j'avais un calque en mode produit, donc pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si ça parlera, mais donc c'est un mode produit, c'est-à-dire que ça multiplie, donc on met de la couleur, et c'est comme si je coloriais avec un marqueur. Et qu'en dessous, l'ancrage apparaissait encore. Il ne disparaît pas. Et après, j'avais un autre calque où je colorais les gris réellement. Parce que sinon, sans colorer les gris, on a un ombrage au noir, ce qui salit la couleur. Donc voilà, c'est important. Mais c'est assez classique maintenant. Il y a beaucoup de dessinateurs qui bossent comme ça. Donc ça, c'est des pages du tome 3 qui n'est jamais sorti. J'avais fait une dizaine de pages et puis...
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est l'époque soleil, quoi.
Pas assez de ventes et on arrête...
Ouais, c'était pourtant pas catastrophique, mais... Ouais, c'est une époque où il y avait vraiment une grosse production. Je suis pas arrivé au bon moment, je pense.
C'était quoi, 2006,
2008? Ouais, 2006, 2007, 2008. Et en fait, je pense que... Enfin, c'est même plus que je pense, c'est sûr. Ils ont en fait remarqué mon travail et en gros, ils voulaient me débaucher pour faire autre chose pour eux sur d'autres licences, quoi. Des licences vraiment...
plus installées, plus vendeuses.
Ouais, voilà. Sauf que moi, c'était pas du tout ma conception du métier.
Tu savais ce qu'ils voulaient...
sans balancer. Bon, sauf que maintenant je m'en fous, il est plus là, le patron. Mais ça tournait presque au chantage en fait. C'était que.
Il fait pareil, mais avec des joueurs de rugby.
Voilà. Il me laissait terminer ma série en amputant quand même un tome. Moyennant quoi, je devais signer un contrat blanc, quoi. C'est-à-dire un engagement à faire un album chez eux. De leur choix, quoi. Et ça, bon, j'avais beau crever la faim, comme j'étais intègre, et ça s'est pas passé, quoi. Alors j'ai galéré après, hein, mais
bon, moi ils m'ont arrêté un album à la 40e planche alors qu'on devait en faire 46. Ils ont dit non, finalement.
Ah oui, donc ouais, tu sais ce que c'est.
Voilà, c'était à peu près, c'était 2008, je crois.
Ouais. Voilà. Bon. La grande époque.
Et est-ce qu'on peut voir des planches en couleur? Ouais. Voilà.
Alors voilà.
Donc comme là, ça, on voit les ombres, là, on voit la vie.
Ouais, on voit la matière, voilà. Même si, mais c'était pas mal comme technique, mais j'y reviendrai peut-être un jour. Mais c'était un peu trop colorié, quoi. Il manquait de l'ambiance. Il manquait un peu de subtilité dans les ombres. C'était peut-être trop. J'aimais bien les côtés la vie, il y a vraiment un côté traditionnel de l'aquarelle. Mais voilà, j'étais pas tout à fait content. Bon, après, ça allait bien avec le projet.
Un truc super important, là, lisons pas, mais le placement des bulles, ça c'est hyper important.
Ah ouais,
la narration.
Ouais.
Tu l'es placé sur tes stories un peu
Un petit peu, mais pas énormément.
C'est un truc qu'on n'apprend pas forcément et qui est une importance auquel on pense
capital,
pas.
Capital, bien sûr. Après, ça dépend de la façon de travailler des scénaristes. Là, donc, je bossais avec Julien Blondel sur ce projet. et je trouvais la méthode très très confortable, c'est-à-dire que il y avait vraiment un découpage technique qui me permettait donc d'élaborer le storyboard, de le dessiner. Il y avait une intention de dialogue, je savais à peu près ce qui allait se dire, mais c'était pas précis, c'était pas au mot près. Donc je faisais ma page et en fait Julien faisait un passage en fait à la fin de l'album, une fois tout fini avec les ambiances, etc. Et lui, à la sensibilité et en réagissant à mon dessin, il venait poser le texte qu'il fallait. Et je trouvais ça super parce qu'il était vraiment respectueux à la fois du dessin, de ce que j'avais fait. Et en plus, on n'était pas dans la paraphrase. Il racontait pas la même chose. Il y avait toujours une subtilité, un décalage entre ce qu'il apportait avec le dialogue et ce que je racontais avec l'image. Et la bande dessinée, je trouve que, enfin, pour moi, c'est ça, quoi. C'est un savant mélange de... on a tendance à croire que le dialogue, c'est souvent en dédicace, on me dit on simplifie, on pense que le scénario c'est que du dialogue. En fait, le scénario il existe déjà avant même le dialogue. Le dialogue c'est la petite, c'est la finition, quoi. C'est ce qui vient donner justement la subtilité du personnage qui vient ajouter une petite touche supplémentaire à la narration générale. Mais du coup c'était très sympa. Alors que là je travaille plus du tout comme ça là. Sur mon dernier projet en date, le scénariste est beaucoup plus bavard et là oui il faut que je cale les bulles et ouais. Si je les cale pas c'est ouais. Galère.
Ok. Donc là il devait y avoir combien de tomes pour Nova?
Ça c'était prévu en 4 et au final j'en ai fait 2 et demi, quoi. Enfin,
donc l'histoire est interrompue à la moitié.
On avait un peu négocié pour finir le troisième en 54 pages et puis bon il se trouve qu'on l'a même pas fini du tout, quoi.
Et donc après, est-ce que t'as envisagé de rebosser avec Julien ailleurs ou comment du coup j'imagine grosse désillusion.
Moi j'étais écœuré, quoi. Ça m'a... En plus, j'étais naïf, je pense, parce que je connaissais pas du tout le monde de la BD. J'ai bossé pendant 10 ans comme un fou dans mon bureau pour en arriver là. Et puis, ça s'est un peu délité tout seul. Puis Julien, je pense qu'il a été aussi écœuré parce qu'il a eu plusieurs désillusions.
Il a arrêté aussi.
Il s'était mis à fond dans la BD et au fait, il a vu qu'il en vivait pas, qu'il crevait de faim et il est retourné à son ancienne activité. Et après, on s'est croisés plusieurs fois et on... Ouais, ça, même l'idée de finir Nova ailleurs, existait, mais bon, on sait bien que c'est quasi impossible déjà récupérer les droits, puis bon, ça va faire bientôt 10 ans. Pff, après, on passe à autre chose. Il y a un moment, il faut pas aussi.
Il faut quand même arriver à avaler ce genre de truc.
Ah ouais, bien sûr.
Pour repartir sur autre chose aussi, quand même.
Rebondir et c'est pas évident. Ouais. Mais. Moi, au final, je regrette rien parce qu'ils m'ont permis aussi de, en faisant ça, j'ai gagné encore plus en intégrité parce que je suis, le fait d'avoir un autre métier à côté, je suis pas du tout lié et pieds et poings liés à la bande dessinée. Je sais que si mon projet s'arrête, je pense que j'aurai un choc affectif, ça me fera chier. Mais par contre, j'aurai pas de... Je me retrouverai déjà pas en galère, ni pour moi, ni pour mes enfants. Donc voilà, je suis libre et je choisis vraiment ce que j'ai envie de dessiner. Et finalement, c'est pour moi la liberté de création, elle est là, quoi. C'est choisir ses projets. Et c'est vrai qu'on a vu quand même ces dernières années beaucoup de dessinateurs être contraints de dessiner des albums qui désiraient pas vraiment, quoi. Donc ça, moi, j'ai banni ça. C'était impossible pour moi.
Et même ça s'épuise, enfin.
Bah ouais, puis là
les 13 mysteries, ça commence à moins rapporter.
Bah ouais, mais c'est
tout
ça.
Tout le monde ne fait que pour l'argent. Parce
ouais, tirer sur la ficelle, ouais, c'est. Mais voilà, quoi.
Ensuite, t'as fait un one shot.
Du coup, j'ai rien amené là-dessus, mais. Ouais. Alors, j'ai fait un one shot en 2000.
Du coup, tu te retrouves sans rien.
Je me retrouve sans rien, ouais.
C'est
voilà.
Sans plus de BD, et donc tu rencontres un autre scénariste.
En fait, tout de suite, j'amorce, commence à faire de la pub. En me disant que la BD c'est mort de toute façon. Et puis au final, je rencontre Christophe Beck m'avait déjà proposé un peu de travailler avec lui. J'avais fait quelques pages pour un projet chez Soleil qui s'appelait Hanté, qui a pas du tout marché, un espèce de collectif.
Histoire d'horreur. Hein,
ouais, un peu de genre, mais j'y croyais pas du tout. Mais bon, après, voilà, moi ils m'ont proposé ça. Et bon, ce qui m'a séduit, c'est ils sont forts pour ça, les éditeurs, c'est que normalement il devait y avoir Travis Charest dans l'album, il y avait De La Fuente, il y avait Springer. Bon, lui Springer a fait les pages. Et finalement, pour moi, la boucle était bouclée. C'était des dessinateurs qui m'avaient inspiré. Et de paraître dans le même bouquin qu'eux, c'était assez sympa. Bon, bah, il se trouve que ça, le bouquin n'a pas marché. Mais, et en fait, suite à ça, Christophe m'a recontacté en me proposant de faire un spin-off de Cartago aux Humano. Et qui était une série que dessinait un copain à moi et dont j'aimais vraiment le boulot. Donc j'ai dit oui, cool, vas-y, on y va, parce que j'étais persuadé de... Je pensais me retrouver à dessiner des fonds marins, comment ça s'appelle, les gros mégalodons, des mégalodons, etc. Et donc j'ai dit oui, ok, on part là-dessus, j'ai reçu le scénario, et en fait j'étais pris complètement à contre-pied. C'était en fait une espèce de préquel qui se passait 25 ans avant dans les forêts californiennes qui traitait du Bigfoot et enfin du Sasquatch, et du coup bon, je me suis retrouvé à dessiner ça un peu au début à contre-cœur, et puis assez vite j'ai rebondi, j'y ai trouvé un intérêt puisque voilà, on avait j'avais aussi vu beaucoup de films des années 80, même 70. J'ai un film Délivrance de 72, la 73, un film qui m'a bien marqué, et j'ai cherché à retrouver ces ambiances un peu froides c'était pas froid, mais ces forêts un peu avec ces rivières.
Il y a un côté X-Files aussi qui était tourné, tu vois, dans les forêts canadiennes.
Ouais, souvent. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Mais c'est pas trop mon truc, mais bon, je me suis pris au jeu, et après, c'est vrai, quand je regarde, je me dis, ouais, c'est pas trop ma personnalité, mais bon, le bouquin, j'en suis content, puis le scénario, je trouve qu'il marche pas mal. Donc ouais, c'était ouais, un bon.
Ça mêle Bigfoot et les chamans indiens, les Wendigo, voilà, c'est ça.
Ah
les...
ouais, Wendigo, ouais.
Il y a un peu, c'est un épisode de X-Files en gros avec Bigfoot, quoi. Enfin, une aventure.
Je connais pas non plus beaucoup X-Files, mais ouais.
Il y a toute une tradition comme ça d'enquête paranormale, et on est vraiment là-dedans, quoi.
D'accord.
Non, bien. C'est. Et ouais. Donc, il y en a eu d'autres après.
Après, il y en a eu d'autres. Non, en fait, donc, mon travail aux Humano s'est très bien passé, parce que malgré qu'on m'ait mis en garde, on m'ait dit, ouais, fais gaffe, les Humano, il y a eu une époque, c'était un peu compliqué pour être payé, etc. Donc, c'est vrai que je venais déjà de connaître des soucis avec Soleil, donc j'ai eu un petit moment de doute, puis au final, ça s'est très bien passé. Et suite à ça, j'étais en bonne relation avec les Humano, et j'étais un peu demandeur de projet. Et j'ai été deux fois, en fait, on a discuté du projet des Métabarons, qui s'est fait là récemment, qui est sorti. J'ai pas encore vu le bouquin, mais ça a l'air vraiment sympa. Et en fait, à l'époque, j'étais vraiment branché quand il était question de que j'attaque là-dessus. Et puis, je sais pas si je me suis dégonflé, mais devant l'ampleur du projet, et puis la violence finalement du, j'aime beaucoup les Métabarons visuellement, même au niveau scénaristiquement, c'est sympa, c'est bien. Mais la violence de Jodorowsky par moment, où le côté malsain dans le scénario m'a un peu mis mal à l'aise, et je me sentais pas c'était pas totalement moi, donc je me suis un peu défilé finalement, sans le dire vraiment que c'était à cause de ça, mais le fond c'était ça. Et c'est vrai que c'est un métier où on se retrouve vraiment seul, on dessine voilà 10 heures par jour tout seul dans son bureau. Moi je bosse pas en atelier, je travaille seul. Et pour moi, le dessin, c'est quelque chose qui doit m'emmener vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Alors, bon, mon dernier album, il est assez sombre, mais il y a quand même une évolution sur les trois tomes. Il y a un concept qui est censé m'amener vers quelque chose de plus mystique, plus lumineux, moins, voilà, moins, moins violent. Et c'est ça qui me plaît dans le dessin, c'est de, c'est justement ce, cette approche un peu ouais, mystique, que d'ailleurs j'approche par certains dessins. Je fais des dessins libres un peu le soir au lit, qui n'ont rien à voir. C'est des dessins au pilote que je fais dans mes carnets de croquis. Bon, il y a tout et n'importe quoi, hein. Mais ouais, il y a des dessins étranges. Bon, là, c'est encore assez. Mais plus des voilà, des plus proche de la gravure, de des expérimentations de trames. Et voilà, c'est ce qui, ça, c'est mes dessins libres qui, idéalement, j'aimerais arriver à avoir cette liberté-là dans la bande dessinée. Mais la narration fait qu'on est. Alors ça, c'est marrant. Ça, c'est un dessin. Bah, vous verrez pour ceux qui liront le Métabaron là. C'est un dessin que j'ai fait quand j'ai reçu le pitch à l'époque du projet des Métabarons. Et j'avais fait ce petit dessin. Alors Valentin Séché qui l'a dessiné, lui, il l'a dessiné complètement autrement. Il lui a fait des.
Ah, c'est lui, d'accord. Oui. Okay.
Il a fait des bras démesurés.
Il était dans la même école que toi, lui.
Non, il était à Pivot, je crois.
Il a pas fait Émile Coll?
Non, il a fait Pivot à Nantes. Je le connais pas beaucoup. On se connaît un petit peu comme ça par Facebook. Mais ouais, il est super fort, super ce qu'il fait. Et du coup, en plus, à l'époque, quand les Humanos m'avaient proposé ça, j'avais découvert le travail de Valentin dans Cal. Et je m'étais dit, mais c'est lui qui devrait faire. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Donc, je trouve que c'est la meilleure, c'est ce qui pouvait arriver de mieux pour Valentin et pour les Humanos. Donc, oula, c'est. Ouais, bah, ils sont tous à l'envers, mais. Ouais, donc ça, c'est des dessins. J'aime bien jouer avec la. Ah oui. Jouer avec la. Ouais, jouer avec le trait, quoi. Rentrer dans la page. Mince. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais j'ai un peu du mal là, je fais n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est les dessins libres, vraiment ou névrotiques peut-être, névrosés.
Il y a un côté Moebius là sur.
Ah ouais, bah ça je l'assume. Hein.
Tu es possédé par l'esprit.
Ouais, parfois. Puis comme beaucoup de dessinateurs, il y a peut-être des dessins de l'époque où il est mort là. Et ouais, ça a été assez même flagrant. Je me suis retrouvé pendant une semaine à faire des dessins et. Ouais, bon, j'étais pas possédé, mais. Ouais, je pense que ça m'a.
Bah, tout le monde y pensait, donc ça revenait peut-être inconsciemment.
Ouais, puis c'est un. En plus, c'est un auteur, enfin, plus qu'un auteur d'ailleurs, mais. C'est un monument, mais. Moi, je sais que quand je suis un peu perdu artistiquement, que je. Comme, voilà, comme je disais tout à l'heure, je travaille seul et que je. On a des moments un peu d'absence, là, on sait pas trop ce qu'on doit faire, comment trouver la motivation, toujours faire mieux, bien. Et c'est quelqu'un que j'écoutais régulièrement, quoi. Il a une espèce de voix apaisante comme ça. Et encore maintenant, encore la semaine dernière, je mets des vidéos en mangeant le midi où je l'écoute. Et donc, ça, ouais, son travail, enfin, je pense que mon travail transpire le travail de Moebius. C'est même. Même si je suis autant fan de Gir que de Moebius, en fait. Donc, et finalement, en bande dessinée, j'ai plutôt une approche académique. Et voilà. Et dans
tu as une autre face en toi que tu nous montres. Là.
Ouais, après, je veux pas justement faire du sous Moebius et calquer ma création artistique sur son espèce de double. Moi, je pense que je suis moins double que lui, mais voilà, à terme, c'est vrai que si je peux explorer un peu la bande dessinée avec un dessin plus libre, je pense que ça me fera vraiment du bien. Voilà, on est moins dans la souffrance, quoi. Là, on est vraiment dans un premier jet où ça sort. Et...
Là, c'est l'inconscient qui dessine, presque.
Ouais, complètement. Puis j'entendais l'autre jour encore, il disait, et je le faisais déjà comme ça, mais inconsciemment, mais il disait, je me mets, il faisait des dessins volontairement, il savait pas par quoi commencer, il faisait un trait, et puis un trait en appelait un autre, et ça, au final, quelque chose naissait. Et ces dessins-là, c'est vraiment l'exercice. Et des fois, je pars en haut à droite de la page, sans savoir ce que je vais faire. Et puis, je rentre dans la page, je fais un volume, un autre volume. Ça peut devenir mécanique, comme viscéral, comme je sais même pas. Et en fait, à un moment, ça prend un tournant. Et...
C'est comme si tu regardes un nuage et que tu imagines quelle forme il a, quoi.
Ouais, voilà. Bah, la perception, enfin, jouer avec les formes. Donc voilà, bon, ça c'est les dessins vraiment du soir. Qui sont. Ouais, je suis pas un peu animal des fois, mythologique. Ouais, il y a pas mal de. Même un peu biblique, pas mal de. J'ai un pote qui est devenu religieux depuis peu et ça a quelque chose qui a transpiré dans mon travail aussi. Donc voilà. Ah si, un peu de couleur. Il y a quelques dessins que je mets en couleur par moment à l'aquarelle. Donc, j'essaie.
Tu fais pas de l'aquarelle au pieu quand même?
Non. Non, ma femme me tuerait. Déjà que les dessins, elle aime bien, mais ça gratte parce que les pilotes, ça fait du bruit sur le papier. Ouais, celui-là, c'était pareil, un essai. Celui-là, il y avait beaucoup d'encre et puis j'étais revenu après avec des pastels secs. Donc voilà, toujours pareil, les dessins des fois abstraits, des fois très figuratifs, un peu pas mal de motos quand même volantes. Donc voilà, ça c'est une partie de mes dessins du soir.
Et donc on en revient à la BD, on en était resté à... Tu as fini Carthago et tu dis non au Métabaron et donc tu en arrives à Aeternum.
Je dis non au Métabaron. Il y avait aussi un autre projet qui est sorti depuis aux Humano qui s'appelait L'autoroute sauvage. Je sais pas, une adaptation de Julia Verlanger, je crois.
Ouais.
Alors là, le projet me disait carrément l'univers un peu Mad Maxien, là,
ah oui,
tout ça. Puis j'adore les autoroutes françaises, enfin un truc qui m'a fasciné, tous les ponts, et il était question de ça, quoi. Et puis bon, voilà, un peu un désaccord. Enfin, je pense que j'étais encore pas tout à fait prêt à revenir vraiment à la BD. J'étais un peu en dents de scie, quoi. Et du coup, ben, Aeternum, comment c'est né? Oui, alors Christophe, on se retrouve autour d'un festival à Nîmes et pour signer Carthago et il me dit mais tu voudrais pas refaire quelque chose? Je me sentais moyen chaud et puis je lui dis bah écoute, si le seul truc moi qui pourrait me plaire c'est vraiment de faire un récit de science-fiction où vraiment tu me laisses carte blanche sur le design où je m'éclate et je fais ce que je veux. Et où je retrouve les sensations d'adolescent quand j'ai regardé les films des années 80, quoi, les Aliens, les Terminators, il est plutôt un espèce de concept de plaisir, quoi. C'est s'amuser sur le dessin et puis retrouver vraiment plaisir d'adolescent, un espèce de plaisir du soir que je fais pour me faire du bien, quoi. Et du coup, alors il m'a dit ok, mais ça a mis un peu de temps à mûrir. Il a travaillé sur un scénario qui s'est fait en deux fois. Il n'était pas complètement content pour au final me l'envoyer, je sais pas, 9 mois après, un truc comme ça. Et le scénario est assez classique, mais du coup j'ai tout de suite vu le potentiel pour moi.
Ça ressemble à Alien un peu.
Ouais,
au début,
voilà, bah il y a plein de références, c'est très référencé, mais il l'assume.
Abyss et puis, aussi.
Ouais, complètement. Et moi-même je l'assume parce que ça fait partie de. Et disons qu'en toile de fond, ce qui m'intéresse là, c'est de me faire plaisir au dessin, de revenir vraiment à la bande dessinée. Et à terme, ce que je développe en parallèle, c'est un projet personnel où je ferai tout. Donc la vraie originalité, je pense, graphique et scénaristique, si je peux en proposer une, ça sera sur un de mes scénarios. Et je pense que c'est là que peut-être j'arriverai à m'exprimer le mieux. Déjà d'un point de vue du découpage, parce que par moment sur Aeternum, alors j'ai amené des pages.
La technique a changé là, par contre.
Ouais, alors là.
Tu vas nous expliquer.
Alors attends. Là, on est vraiment sur. Là, je travaille. Alors, sur le tome 2, là, je refais vraiment tout l'ancrage sur papier. Mais j'ai eu un mix sur ce tome 1 d'ancrage papier et d'ancrage ordinateur. C'est-à-dire que. Alors, tout ce qui était séquence un peu organique, viscérale, là, il n'y a que de l'ancrage papier. Donc, on a un ancrage noir et blanc classique au pinceau que je scanne et que je mets en couleur sur Photoshop. Avec une couleur un peu texturée qui me permet d'avoir un rendu, bon là, on ne voit pas trop bien, mais un rendu un peu aquarellé. En fait, là, là, c'est pareil. On a encore tout sur papier. Mais j'ai des séquences là notamment, je crois que j'ai commencé à amorcer un truc à cette page là où j'ai tout le décor là, il est intégralement fait sur info. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que toutes les structures un peu rigides, finalement, elles gagnaient à être faites sur info. Elles sont plus ont plus de patates. Mais bon, je dis ça, puis j'y reviens. Là, sur le tome 2, je fais des pages intégralement sur papier. Ouais, j'aime bien. Je bosse sur un plus grand format, même maintenant. J'aime bien varier. J'entendais une fois Tarquin qui disait ça, qui disait que d'un album à un autre, il changeait de technique, de format, et que ça lui permettait vraiment de pas se lasser. Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne approche, quoi. Donc là, ouais,
moi je voulais te poser une question sur ton découpage. Je trouve il y a une influence vraiment très américaine dans ton découpage. Alors peut-être pas là, mais plus dans Nova, notamment toutes ces cases horizontales en fait.
Ah oui,
il y a vachement de cinémascope. Alors ça se fait de plus en plus en BD européenne, mais c'est vraiment un truc très américain.
Bah, pourtant, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu très peu de BD. Moi, j'ai pas une culture BD très importante.
Là, c'est pas le cas en fait, mais surtout les planches qu'on voit là.
Ouais,
il y a beaucoup de bandes là, il y a beaucoup de dialogues.
Il y a quand même des bandes.
Ouais, il y en a aussi, il y en a en bas, ouais.
Mais un album qui m'a vraiment marqué, c'était Volunteer de Benoît Springer, qui était un récit qui se passait à New York dans les années 80 de vampires. Et j'ai découvert qu'il racontait souvent sur 5 strips, avec des strips assez étroits, mais il était vraiment en cinémascope. Et c'est vrai qu'on peut aller vraiment chercher loin dans les perspectives, avoir des grands angles sur des formats horizontaux. Et ouais, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup.
Bah, c'est vrai que tu fais de la BD avec des grands décors, des grands. Enfin, c'est pas de la BD intimiste, donc évidemment, t'as besoin de.
Ouais, ça le permet, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu le dis. Oui, je suis beaucoup là dans la. Puis je mets beaucoup de décors. C'est vrai qu'on m'a souvent fait remarquer que je mettais des décors dans toutes mes cases.
Ouais.
Mais ça part d'un. Bon, c'est peut-être un peu obsessionnel, mais. L'objectif de cette série, c'était de faire un truc à mi-chemin entre la bande dessinée, le cinéma, le jeu vidéo. Alors, je suis pas du tout joueur non plus, mais tous les effets spéciaux que j'ai pu voir dans certains jeux, les effets d'incrustation visuelle, enfin les écrans, tout ça, ça m'a toujours plu. Et le cinéma, l'approche en fait que j'ai d'Eternum, c'est d'avoir toujours conservé une narration très fluide, très simple, avec des plans qui sont pas forcément très impressionnants. Je suis jamais dans la surenchère de contre-plongée, de plongée, même si des fois je suis tenté de le faire pour faire une belle image, mais je cherche plutôt à respecter les sens de lecture, les diagonales, avec des plans finalement assez simples. Alors ça, j'ai appris ça en regardant beaucoup les albums de Mathieu Bonhomme, le Marquis d'Anaon, qui était pour moi, narrativement, j'ai appris beaucoup sur sa façon de partir d'un gros plan, dézoomer dans l'axe toujours, des trucs très, très élémentaires, mais qui permettent de jamais perdre le lecteur. en plus, comme j'ai un dessin assez fouillé avec plein de détails, ça permet d'avoir une lecture très rapide de l'image. Et après, on peut rentrer à loisir dans le décor, dans le détail. Et je travaille beaucoup sur la profondeur de champ, les successions de plans. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la perspective atmosphérique. Travailler la narration sur la page, c'est-à-dire rester en deux dimensions sur la page pour le lecteur, mais en tant que dessinateur, vraiment avoir une immersion en profondeur dans l'image. Donc, pour moi, c'est assez obsessionnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de décors.
Combien, tu as dit 3 tomes pour Eternum, c'est ça? Ça sera bouclé en 3 tomes?
3 tomes, ouais.
Et donc, ensuite, pour toi, tu as déjà l'idée de ce que tu vas faire comme BD seul
Ah ouais. Ça, j'ai même... Ah oui, ça, c'est les storyboards. Enfin,
ah, ok.
Oui, pour en revenir à ta question, oui, j'ai un projet, finalement, qui est vieux comme tout, puisque c'était mon univers de mon projet d'études, en fait. Qui est un truc qui mûrit depuis 10-15 ans et peut-être même c'est ce qui m'a amené au dessin. Finalement, j'ai toujours raconté mon histoire, quoi. Et cette histoire, elle est en bonne voie. Ça va.
C'est un truc de genre. C'est un truc.
Ouais, réaliste. C'est toujours. On est dans du genre. C'est de la SF post-apocalyptique. Mais ce qui m'intéresse, c'est ni l'apocalypse, ni la chute d'une civilisation, mais plutôt la reconstruction d'une autre, d'une communauté, et les rapports père-fils, et les rapports de l'individu dans un groupe. Et il y a une part mystique aussi très importante.
Ok. On va être obligé d'arrêter. Est-ce qu'il y a un projet de rêve? J'ai l'impression que celui-là il te tient vraiment à cœur, là, celui dont tu viens de parler, là, le truc à venir. Est-ce qu'il y a un autre projet, un truc que tu aimerais vraiment faire, un espèce de rêve un peu fou même dont t'oses à peine rêver, non? Ou de bosser avec un mec qui...
Ah, de bosser avec un mec? Pas vraiment, non.
T'es pas obligé, hein. Tu peux venir.
Ce qui est bizarre, c'est que plus j'avance, plus je peaufine mon travail en bande dessinée, et plus j'ai l'impression de m'en écarter. C'est-à-dire que mon intérêt, j'aime ce que je fais, mais par moments, j'ai des matins, je me lève, je me dis, je ferais bien autre chose. Et c'est assez déroutant par moments, et. Ce qui fait que j'imagine souvent ne pas faire de la bande dessinée toute ma vie. Donc, je pense même que l'aboutissement pour moi, ce serait vraiment de réaliser mon projet avec une immersion totale pour moi et pour le lecteur, j'espère. Et si j'y arrive, après, je rebondirai bien sur autre chose, quoi. Je me vois pas.
Ok. Voilà. Est-ce que, avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Non, personne. Bon, bah écoutez, merci Jaouen, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et puis, tu dédicaces peut-être après, maintenant là. Il est 15h. 17h, il est en dédicace à la librairie, voilà. Merci beaucoup.